Nous revoilà sur Fracture, émission hébergée par Pulsar 95.9. Vous venez d'écouter Singe des rues, moins de barreaux, plus de brèches. Je suis avec Cathy et Katrina et on poursuit cette émission en évoquant les entreprises qui sont au cœur des prisons. Alors, pourriez-vous revenir plus en détail sur des entreprises qui sont chargées de la gestion du quotidien des prisons ?
Oui, alors la première génération de marché, dans la fin des années 80, a confié le fonctionnement de 21 nouveaux établissements à 4 groupements d'entreprises, avec une répartition selon les territoires sud, est, ouest et nord. On retrouve GEPSA, filiale qui était alors créée par la Lyonnaise des Eaux, Dumez, Sige et GCEP Égide. La seconde génération de contrats, qui a été notifiée dans les années 2001, a étendu le même principe à 6 autres établissements pénitentiaires, dans le cadre du programme 4000. Donc ce sont 5 marchés publics qui ont été ouverts, avec pour titulaire à nouveau Sige, GEPSA, désormais du groupe Suez Énergie Service, et IDEX Énergie. Parmi ces entreprises, on retrouve à la prison de Poissy-Vivonne donc GEPSA qu'on a cité, slogan leader des services en site sensible, on appréciera l'ironie, et Eurest du groupe Compass France, dont le slogan est le leader en restauration collective. GEPSA en fait gère 37 prisons ou centres de rétention administrative en France. Centres de rétention administrative donc pour les personnes migrantes sans papier. Pour l'anecdote, Eurest a fait la une aussi il y a peu par rapport à la prison de la Santé à Paris, où les prestations d'Eurest ont été dénoncées pour portions congrues dans les gamelles, donc servies à la louche en remplacement du système de barquettes. Pour le dire en bref, les prisonniers ont la dalle. Le contrôleur général des lieux de privation de liberté est sur le coup, la direction de la prison a été saisie, mais pas de réponse à ce jour.
Oui, et moi juste du coup pour faire un point sur les, pour dire un mot sur les cantines que tu as évoquées tout à l'heure et dont tu as plus parlé dans la dernière émission. En 2015, il y a un rapport qui faisait remonter de vives critiques de la part des prisonniers et prisonnières face justement à ces logiques privées, notamment des prix variant de façon incompréhensible pour la lessive, par exemple. Pas de commande groupée, ce qui fait peser des frais de port sur chaque prisonnier. Ou encore une location de téléviseur de 18 euros par mois chez Eurest, 13 euros si l'on est propriétaire de son propre téléviseur. Bref, tout ça pour dire qu'on est bien là aussi dans une logique de profit. Et tous ces trucs, pourtant, il faut bien que les prisonniers les payent.
Et oui, et les détenus n'ont pas tellement de sources de revenus. Ce qui me permet d'aborder un autre point. J'aimerais bien qu'on parle d'une autre implication des entreprises en prison. C'est un point très particulier, c'est le travail salarié des détenus.
Oui, donc pour commencer, il faut savoir que les montants des salaires, les activités, les règles vont diverger d'un établissement à l'autre, parce que le droit du travail ne s'applique pas en prison. Ça concerne le droit du travail, le travail en prison, peu de détenus, 1 sur 4 environ. Et à Poissy-Vivonne, en 2017, on savait qu'il y avait 28% des prisonniers qui travaillaient.
Ah, ok, alors il y a quoi comme différents types de travail ?
Alors il y en a, on va dire, deux principalement. Alors d'abord, il y a le travail interne de la prison, en fait. Les détenus, là, ils sont employés pour l'entretien des locaux, pour faire le linge, pour faire la confection des repas. On appelle ça le service général. Les détenus, en fait, ils sont payés par le prestataire en charge de la gestion de la prison. Et d'ailleurs, on peut noter que les contrôleurs observent régulièrement que les auxiliaires du service général, pour la grande majorité, ne bénéficient pas de jours de congé hebdomadaires et travaillent donc tous les jours. Sinon, l'autre type de travail qu'on retrouve en prison, c'est des travaux de manufacture ou de production industrielle. Et là, ce sont donc des entreprises extérieures qui emploient les détenus. Alors souvent, c'est des boulots sans qualification, des tâches simples et répétitives, plutôt pénibles et pas très intéressantes. Ça peut être par exemple de la mise en conditionnement, de la découpe, des petits travaux de peinture, de soudure, etc. Alors ils peuvent se faire en atelier ou directement en cellule, cellules qui ne sont absolument pas prévues pour accueillir une activité de ce type. Je le répète, c'est bien des entreprises extérieures là, qui emploient les détenus. Alors ça peut être aussi un service public, par exemple l'INA, donc l'Institut National Audiovisuel, paye des salariés pour leur faire faire de la restauration d'archives. Mais c'est plus anecdotique, hein. La plupart du temps, c'est bien des industriels. On va y retrouver des entreprises comme Yves Rocher, L'Oréal, Bic. En fait, c'est un peu difficile de donner une liste des entreprises qui interviennent comme ça en prison, bah parce que ça fait un peu tâche, quoi. Donc, comme c'est pas top pour l'image, voilà, c'est pas forcément facile de les retrouver, quoi.
Oui, on peut ajouter qu'à la marge, on trouve quelques activités du secteur tertiaire, pas n'importe lesquelles. On va retrouver des centres d'appels téléphoniques, par exemple, au centre pénitentiaire de Rennes. Il y a également des boulots proposés par le service de l'emploi pénitentiaire qui vont être plus qualifiés mais qui ne sont pas très nombreux. Des métiers par exemple de confection, de boiserie, métallerie ou imprimerie. Là, ça se fait en atelier, mais il n'y en a que dans 24 établissements pénitentiaires en France.
Ok, alors du coup, par rapport à tous les boulots que vous venez de citer, qu'est-ce qu'on peut dire sur les conditions de travail pour le détenu ? Est-ce que c'est la même chose qu'à l'extérieur ou est-ce que c'est différent ?
Ah non, oui, non, c'est pas du tout la même chose et on en est même très loin. En fait, déjà, les détenus passent pas de contrat de travail, il y en a pas. C'est un contrat en fait qui est juste passé entre le détenu et l'administration pénitentiaire. Donc du coup, pas de contrat de travail, ça veut dire pas de code du travail. Donc bah pas de salaire minimum, pas de congés payés, pas de cotisation pour le chômage, pas le droit aux arrêts maladie, en tout cas pas d'accès à la protection sociale. Juste pour le salaire, alors il est censé être un peu réglementé quand même, hein, mais il faut voir comment. En gros, en principe, les personnes travaillant en production là, pour le compte d'entreprises privées ou de services de l'emploi pénitentiaire là, doivent recevoir une rémunération horaire équivalente à 45% du SMIC, ce qui fait à peu près 4 euros de l'heure. Ça, c'était en 2015, ouais, les chiffres du 2015. Et pour les personnes qui travaillent au service général, selon la classe du poste, on peut descendre jusqu'à 20% du SMIC. À titre d'exemple, à Poitiers-Vivonne, le salaire dans cette prison est à 1,23 euros de l'heure.
Cette exclusion du droit du travail, elle ne s'explique pas autrement que par la contrainte qui peut être exercée à l'encontre de personnes privées de liberté et à qui l'on nie avoir des droits fondamentaux. La seule justification, en fait, qui manque cruellement d'arguments, elle repose sur le dogme de la réinsertion, le travail à l'intérieur qui permettrait de préparer la sortie. Mais dans cette logique, il n'est pas rare non plus d'entendre avancer l'idée d'un travail obligatoire pour chaque prisonnier, dans leur intérêt bien sûr.
Oui, bien sûr. Et en plus, donc ces salaires qui sont déjà dérisoires ne sont en plus, pour la plupart du temps, même pas respectés. Il faut savoir que le forfait journalier ou la rémunération à la pièce arrive souvent. Alors au passage, quand même, donc sur le site de l'OIP, l'Observatoire international des prisons, un avocat signale que si, a priori, si on porte ça au tribunal, l'administration se fait quasiment systématiquement condamner. Voilà, c'est toujours bon à savoir.
Oui, mais malgré tout, on est face à l'arbitraire du milieu carcéral qui échappe au droit. On peut prendre aussi l'exemple des missions de l'inspection du travail. Les prérogatives, elles sont limitées en prison, simplement au domaine des règles d'hygiène et de sécurité. Et a un pouvoir de conseil, mais aucun pouvoir de contrainte par rapport à l'administration pénitentiaire ou par rapport à l'entreprise employeur.
Alors pour continuer un petit peu sur les conditions de travail, alors donc toujours dans le même ordre d'idées, pas de possibilité de se syndiquer, donc pas possibilité de se faire représenter, pas de jours de repos, hein, donc les détenus peuvent travailler en continu plusieurs semaines sans problème, pas de pause, hein, même si on a travaillé 6 heures consécutives, donc il n'y a pas de pause, voilà, obligatoire. Le travail est souvent répétitif et souvent s'organise même en chaîne. Alors, avec toutes ces conditions, évidemment, peut s'en suivre des cadences infernales pour respecter les objectifs fixés par les concessionnaires. En sachant que donc les commandes passées par les entreprises sont souvent passées à très bref délai, par exemple une quinzaine de jours à l'avance. C'est donc quotidiennement que donc JEPSA, qui s'occupe de ça, qui répercute en fait à la personne responsable du travail le nombre de travailleurs nécessaires pour le lendemain. Ce qui est bien qu'on n'est jamais garanti d'avoir un travail et en fait on peut même le savoir au dernier moment. C'est pas sans rappeler un peu. Bah c'était, en gros, c'est les conditions de travail avant d'avoir accès au code du travail. Enfin, on est un peu dans ce truc-là, quoi. En plus, le fait donc de finalement obtenir un travail peut avoir un impact et priver par exemple les détenus de l'essentiel des activités proposées en prison. Donc, ça peut empêcher d'aller à la bibliothèque, de suivre des enseignements, des activités socioculturelles ou de faire du sport, quoi. Si on travaille, on n'a pas le temps, quoi. Ou bien d'aller en promenade, voire même de pas pouvoir faire ses parloirs. De l'avis des personnes détenues entendues et de plusieurs professionnels, certaines cadences fixées pour une heure de travail sont irréalisables. En moyenne, un atelier sur trois serait dans cette situation et il y a des détenus qui notent que le rythme est parfois plus dur qu'à l'extérieur en usine.
Oui, on voit bien que les enjeux de la productivité du privé sont bien présents dans cette activité-là en prison, où il est aussi question de flexibilité, comme nous le rappellent parfois les directeurs de GEPSA. Sur la question de l'encadrement juridique du travail, qui ne fait pas l'unanimité, mais où il y a eu parfois des campagnes, notamment d'associations comme l'OIP, qu'on a cité plusieurs fois, cette question elle a été soumise à plusieurs reprises à l'avis du Conseil constitutionnel, en 2013 puis en 2015, mais à chaque fois, la juridiction n'a pas estimé contraire à la Constitution l'absence de contrat de travail pour les personnes qui ont une activité professionnelle en détention.
Ok, alors on remerciera encore une fois le Conseil constitutionnel de prendre la défense des travailleurs et des plus précaires. On se fait une petite pause musicale avec un groupe camarade qui s'appelle The Coupe et leur titre phare The Guillotine, si ça peut donner des idées à certains ou certaines.
Caution, we're coming for your head. So call the feds and get files to shred. Every textbook read said bring you the bread. But guess what, we got you instead.
We got the guillotine. We got the guillotine. You better run. We got the guillotine.
Vous êtes toujours à l'écoute de Fracture. Donc avec Katrina et Cathy, on discute prison et profit. Vous venez de parler de conditions de travail en détention, mais au juste, comment les détenus font pour obtenir un boulot justement en prison ?
Alors, ce n'est pas facile d'obtenir un travail en prison. Il y a des listes d'attente. En fait, donc c'est le détenu qui dit s'il veut ou pas travailler. Il faut qu'il fasse une demande. Et ensuite, c'est une commission qui va décider si tel ou tel détenu peut travailler. Et qui le fait selon des critères plus ou moins encadrés. En sachant que quand on dit qu'on peut travailler, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en CDI. Hein, c'est, on l'a vu tout à l'heure, c'est un peu aléatoire. Et en réalité, donc l'OIP nous dit que d'autres critères prévalent le plus souvent et qui sont davantage tournés vers la gestion de la détention. Donc s'y mêlent des objectifs de maintien de l'ordre, de prévention des évasions et de préservation des intérêts des concessionnaires en vue de les fidéliser.
C'est ça, et en fait la procédure dont tu viens de parler, ça s'appelle la procédure de classement. Elle est valable pour le travail et pour la formation professionnelle, et elle est censée permettre aux personnes qu'ils souhaitent de travailler à un poste qui répond, dans la mesure du possible, à leurs attentes, en détention et en préparation de la sortie aussi. Selon le droit, il est censé au moins être remis aux prisonniers à l'occasion de ce classement un acte d'engagement, donc pas un contrat de travail, mais cet acte ne précise pas toujours le montant de la rémunération et encore moins les conditions de la fin de la relation de travail. Du coup, les critères énoncés par la loi pour cette procédure de classement sont divers. Il y a l'ancienneté de la demande, il y a l'état des ressources financières ou encore l'existence de parties civiles à indemniser, mais aussi le comportement en détention.
Oui, en gros, il ne faut surtout pas être un détenu qui fait parler de lui, bien entendu. En fait, ce système de classement est utilisé aussi comme moyen de pression sur des prisonniers récalcitrants.
Donc si je comprends bien, une fois qu'on a un travail, on n'a à la fois pas de quoi contester les mauvaises conditions de travail, pas de syndicat, etc. Et puis, on est soumis aussi à l'arbitraire de la commission de la prison qui décide qui travaille ou qui travaille pas.
Oui, oui. Et malgré tout ce qu'on a dit, évidemment, en fait, ces boulons sont quand même très prisés par les détenus parce que, en fait, c'est mieux que rien, quoi. Ça permet de gagner mal, peut-être, mais de gagner quand même un peu de sous. Et il faut savoir que ce droit à prétendre à une activité professionnelle a quand même des objectifs essentiels en prison, parce que percevoir une rémunération donne aux personnes détenues des moyens de subvenir à leurs besoins immédiats et de s'acquitter des dépenses inhérentes à la détention, au premier rang desquelles, tu en as parlé à l'instant, figure l'indemnisation des parties civiles, s'il y a quoi.
Le coût de la vie en prison, il a été estimé à peu près 200 euros par mois. Et ça, c'était un rapport sénatorial d'il y a plus de 10 ans, donc on peut imaginer que ça ait encore augmenté. C'est souvent la famille qui va alimenter le compte interne des détenus quand elle le peut. Mais en fait, il reste quand même 17% des personnes incarcérées, à peu près, qui ont été comptées, qui sont considérées en pauvreté carcérale. Donc elles disposent de moins de 50 euros par mois.
En tout cas, du coup, c'est tout bénéf pour les entreprises qui en profitent et l'administration pénitentiaire qui fait des économies. Et qu'est-ce qu'on en dit à Vivonne ?
On a pu entendre la directrice de Vivonne nous présenter cette main-d'œuvre pas chère, rémunérée 1,23 euros de l'heure, sans contrat de travail, comme faisant le bonheur des entreprises. Et ça, de manière tout à fait assumée. On voit aussi la facilité avec laquelle l'entreprise GEPSA conclut des partenariats avec les entreprises. L'entreprise Delsol, Quadripac, l'entreprise Legrand aussi.
Alors, on arrive vers la fin de l'émission. On va aborder un dernier point. La commune de Vivonne dans tout ça, là, qu'est-ce qu'elle en dit ?
Bien, pour la commune de Vivonne et pour toutes les communes qui accueillent un centre pénitentiaire, en fait, c'est tout bénef. Ça devient un lieu de passage, un lieu de travail, un lieu qui passe à la télé aussi. Et à Vivonne comme ailleurs, le foncier prend de la valeur, le nombre de terrains constructibles augmente, le nombre d'habitants aussi. Les commerces autour en profitent, les écoles se remplissent. D'ailleurs, le nombre d'habitants de la prison sont comptabilisés comme nombre d'habitants de la ville de Vivonne, donc ce qui ouvre des possibilités en termes de subventions et de politiques publiques.
Oui, et du coup, juste pour terminer là-dessus, on retrouve en fait cette logique dans les communes qui accueillent aussi d'autres types d'infrastructures. On peut penser à Poitiers avec le CHU ou bien à Civaux avec la centrale nucléaire. Et juste pour faire pour reparler cette idée de gestion privée, on peut donner comme exemple le tribunal de Paris, donc qui lui est géré par l'entreprise Arelia, dont Bouygues est actionnaire. On remarquera que Bouygues revient quand même assez régulièrement. Donc, Carelia est aussi propriétaire des murs du nouveau palais de justice. Et en fait, ça entraîne tout un tas de complications dans le fonctionnement du tribunal. Je vous laisserai juger si c'est bien ou pas que le tribunal fonctionne correctement ou pas. C'est pas mon propos, mais en tout cas, voilà, l'État verse à cette entreprise, en tout cas, un loyer pendant 27 ans. Et il faut toujours faire le lien avec cette entreprise pour le fonctionnement du lieu. Alors on n'a pas parlé, juste encore pour terminer, je me permets, on n'a pas parlé des tiges, donc le travail d'intérêt général. Donc pour rappel, c'est une peine, une condamnation. Donc le détenu va travailler au service, va travailler de manière gratuite, au service d'une association ou d'un service public ou à des entreprises privées ayant une mission de service public. Il n'est pas dit qu'à un moment, le gouvernement parle d'ouvrir au secteur marchand, ce qui serait encore une fois tout bénef pour les entreprises.
Alors pour conclure, on va vous fournir quelques ressources pour aller un peu plus loin. Donc d'abord, vous pouvez retrouver la liste complète des entreprises sur anticarcéralpoitiers.noblogs.org.
Oui, et du coup, on a plusieurs fois parlé de l'OIP, donc ils ont un site internet, et d'ailleurs, ils ont un peu de mal en ce moment à maintenir leur activité, notamment à cause de baisse de subventions, toujours en baisse, et du coup, ils ont sorti un communiqué, voilà, que vous pouvez retrouver sur internet.
Vous pouvez aussi aller voir le site de l'Envolée pour retrouver des lettres de prisonniers et prisonnières.
Merci, eh bien, l'émission est terminée. Merci André à la technique, merci Cathy et merci Katrina. Vous pouvez la réécouter en podcast sur le site de Radio Pulsar 95.9. On se retrouve vendredi prochain à 18h pour une nouvelle émission de Fracture. Ciao, ciao.
Jump.